On ouvre ensemble, s'il vous plaît, 1 Samuel 17. Et on va parler ce soir de, certes de Goliath, de cette catégorie de géants qu'il représente, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azekah à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, et la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nomma Goliath. Il était de Gat et il avait une taille de 6 coudées et un empan. On pourrait dire qu'il ferait un bon 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 sicles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 sicles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Goliath s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la honte, l'opprobre, la honte de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, le frère aîné de David, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit « Pourquoi est-ce que tu es descendu ? À qui est-ce que tu as laissé le peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil, je sais la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui l'envoya chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » Et il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül, par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis même pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Et là, je dis un grand « Amen ». On reverra ça plus tard. Heureusement, il s'est débarrassé de l'armure de Saül. Verset 40, la lecture est un peu longue, désolé, mais il y a tellement de choses à voir dans ce texte. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Est-ce que je suis un chien ?» pour que tu viennes avec moi, que tu viennes à moi, pardon, avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, il prit une pierre, la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie. Sans avoir d'épée à la main, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tuera du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Vous aimez les géants ? Bien sûr, la réponse est non. Bien sûr, nous n'aimons pas les géants. Est-ce que vous avez conscience que vous avez besoin de vos géants ? Vous n'aimez pas vos géants. Je n'aime pas non plus les géants. Pourtant, vous comme moi, nous avons besoin de nos géants. Nous avons besoin de nos problèmes. Nous avons besoin de nos impossibilités. Nous avons besoin de nos difficultés. Même si ça ne m'arrange pas et que je n'en ai pas conscience, Dieu le permet parce que j'en ai besoin. Voyez, ce qui est super avec le géant, c'est qu'il me rappelle qui je suis. Il me rappelle où j'en suis. Il me rappelle ma véritable taille. Il me rappelle ma petitesse. Il me rappelle mon incapacité. Et il me rappelle à quel point j'ai besoin de Dieu. Parce que moi, dans ma nature humaine, je me crois capable. Tant que tout va bien, j'ai l'impression que j'ai un niveau, mais alors... Moi et mon besoin de tout gérer, moi et mon besoin de tout contrôler, je suis convaincu que je sais, je suis convaincu que je peux. Mais quand le géant arrive et que je vois sa taille à lui, je réalise quelle est ma véritable taille à moi. Et mes problèmes me disent qui je suis, ils me disent où j'en suis et ils me rappellent que je ne suis pas aussi balèze que ce que je croyais. Et ils me rappellent mon besoin de Dieu et ils m'obligent à chercher Dieu, il va m'obliger à me confier en Dieu, il va m'obliger à m'appuyer sur Dieu, afin que j'aille puiser des forces, des ressources nouvelles, une inspiration nouvelle, parce que là, je vous en avais parlé hier, on en reparlera, il n'est pas question de calquer des méthodes. Le coup de la fronde, c'était une super inspiration. Jamais personne n'avait vaincu un ennemi avec une fronde. Ah, on avait vaincu, certes, on avait déjà vaincu avec des cruches et des flambeaux. Ça, c'était Gédéon. C'était Gédéon. On avait déjà vaincu en faisant le tour d'une ville et on avait fait tomber une forteresse. Ça, c'était Josué. Mais c'est des choses qui se sont faites une fois. Et je vous l'ai dit, avec Dieu, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas de copier-coller. Dieu ne fait jamais les choses de la même façon. Et il fallait avoir vraiment une vie, et on va le voir, il fallait vraiment être branché authentiquement sur Dieu pour avoir ce degré de courage et d'inspiration et faire quelque chose qui ne s'était jamais fait et qui ne s'est plus jamais fait derrière. Parce que les cruches et les flambeaux, ça s'est fait une fois. Tourner autour de la ville de Jéricho, ça s'est fait une fois. La fronde, ça s'est fait une fois. Et tous ces grands actes héroïques dans l'Ancien Testament, ça s'est fait une fois. Et il fallait vraiment, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que mes géants me rappellent qui je suis. Ils m'obligent à me tenir devant Dieu, parce que là, je vais trouver du courage, des forces, et je vais même trouver de l'inspiration pour que des solutions soient apportées, et que des géants, pour que des têtes tombent. Alors bien sûr, tout ce qu'on va voir, c'est du spirituel. Demain, vous n'allez pas voir votre belle-mère, hein ? Je ne vais pas plus loin, vous avez compris, hein ? On aimerait bien avoir une vie sans géant. On voudrait une vie confortable. On voudrait une vie sans difficulté. On n'aime pas trop les surprises. On n'aime pas trop les défis. On n'aime pas les combats. On n'aime pas l'adversité. Et une vie sans surprise, sans difficulté, sans combat, sans adversité, ça arrive, vous en aurez bientôt une. Celle-là, elle est au ciel. Mais sur la terre, vous avez besoin de vos géants. Et je le redis, sur la terre, Dieu n'est pas le Dieu qui fait en sorte qu'il ne m'arrive rien. Dieu est le Dieu qui va m'amener plus loin avec lui. Dieu est un Dieu qui se révèle comme un Dieu plus grand que mes géants, un Dieu qui va me permettre de les renverser, ce que j'aurais jamais pu accomplir, ce que j'aurais jamais pu renverser sans lui. Avec lui, ça va être possible. Et Dieu ne fait pas en sorte qu'il m'arrive rien. Dieu permet des géants parce qu'il faut que je grandisse et que je leur coupe la tête. Alors on va voir certains principes, vous l'avez compris, des principes spirituels. En méditant sur ce texte, j'ai ressorti 6 grands principes qu'il faut absolument acquérir, qu'il faut absolument comprendre pour pouvoir triompher de nos géants. Et en réalité, vous allez voir, je n'invente rien, tout est dans le texte, tout est là. Et on retrouve ces principes aussi dans d'autres récits, dans d'autres victoires, dans la parole de Dieu. Alors, que ça me plaise ou non, je suis engagé dans un combat. Il y a des ennemis qui se dressent sur ma route, il y a des circonstances contraires, il y a des difficultés qui portent des noms différents selon vos situations respectives. Et parmi toutes ces circonstances, parmi ces philistins, ce lot de circonstances qui peut être là régulièrement, plus ou moins devant moi, il y en a un qui se détache, il y a une difficulté, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui va sortir du rang et qui va vous éprouver. Verset 16, matin et soir, 40 jours, 40 l'épreuve. Il y a quelque chose, c'est votre Goliath, il y a quelque chose qui sort du lot de vos circonstances, ce qui va vous mettre la boule au ventre, ce qui va vous mettre un nœud à l'estomac, comme on dit, ce qui vous coupe l'appétit, ce qui trouble votre sommeil, ce qui vous fait peur, ce qui vous défie, ce qui vous angoisse, ce qui vous domine. Verset 9, tout l'enjeu est là, vous nous serez assujettis. Ce qui vous assujettit. Ce qui vous domine, ce qui vous fait peur, ce avec quoi vous vous levez le matin, ce avec quoi vous vous couchez le soir, ce que vous n'arrivez pas à évacuer, c'est ça votre Goliath, c'est ça votre géant. Et ce n'est pas forcément le même pour vous que pour moi. Il est dans une forme concrète, dans vos circonstances. Alors, ce géant, il me fait peur et quelque part je lui suis, c'est un des termes forts, des termes clés de 1 Samuel 17, je lui suis assujetti. Saül et toute l'armée étaient assujettis, ils avaient peur de Goliath. Ce Goliath, dans vos circonstances, il vous fait peur, il conduit vos paroles, il conditionne vos comportements, vos réactions. Est-ce que c'est un collègue de travail, une relation professionnel, tendu, conflictuel, quelque chose dont vous ne vous sortez pas? Est-ce que c'est un conjoint inconverti? Est-ce que c'est un membre de famille? Est-ce que c'est une situation familiale ou autre? Est-ce que c'est une situation financière? Le matériel est un géant dans la vie des chrétiens. Pour des jeunes, parfois, c'est leurs études. C'est un géant devant eux, ils ne s'en sortent pas. Ils ont peur. L'avenir peut être un géant. Et il y a toutes sortes de circonstances pratiques, ce qui va m'oppresser, ce qui va me dominer, ce qui va me conditionner, ce qui me fait peur, c'est mon épreuve, c'est mon 40 jours à moi, c'est mon Goliath, assujetti, 40 jours, matin et soir, vous vous couchez avec, vous vous levez avec. Ben, ça ne fait pas plaisir, je m'en passerai fort bien, et pourtant, Dieu l'a permis. Et j'ai besoin de mes géants parce que Dieu n'est pas le Dieu du possible, Dieu est le Dieu de l'impossible. J'insiste, Dieu ne veut pas me débarrasser de mes géants. Vous allez finir par croire que je suis anti-prière. Ce n'est pas le cas. Je dis que dans la vie chrétienne, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Et chaque principe dans la vie avec Dieu est important. Et on ne résume pas tout à une histoire de prière. Il y a des géants, tu peux prier, tu peux jeûner tout ce que tu veux, Dieu ne te les enlèvera pas. C'est tout. C'est à toi de les renverser. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour passer à l'action. Et j'ouvre une parenthèse. Hein. Si vous trouvez le moment où David a prié dans ce récit, vous venez me voir, hein, ok ? J'ai pas dit qu'il fallait pas prier. Dieu ne me débarrasse pas de mes géants. Il veut m'amener à triompher de mes géants et à leur couper la tête, de sorte qu'il n'ait plus d'emprise sur moi, de sorte que j'ai une authentique victoire. De sorte que ce géant, il ne dicte plus mes pensées, qu'il ne conditionne plus mes nuits, ou mes paroles, ou mes silences, ou mes actions, ou mes non-actions, mes paralysies, mes décisions, mes sentiments, etc., etc. J'ai besoin d'acquérir 6 principes essentiels, 6 principes fondamentaux qui vont conditionner soit ma victoire, soit mon échec. Le premier de ces principes, c'est la vision. David était un homme de vision. Le peuple, tout comme son leader rétrograde, Saül, marchait par la vue. Et pour moi, la clé de leur échec, une clé négative de ce récit, c'est le verset 24. Et c'est là que tout le problème se tient. « À la vue de cet homme ». J'ai dit dimanche, quand on a parlé sur le pardon, j'ai insisté à un moment, et je le redis ce soir, que le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est un système binaire. C'est 1 ou 0. Jésus a dit, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. J'ai mis devant toi 2 chemins. Un homme avait 2 fils. Dans le temple, il y a 2 types de personnes, etc., etc. Et tout dans la Bible fonctionne sur la dualité. Il y a les gens qui ont pleinement saisi la grâce et ceux qui sont encore en difficulté. Il y a ceux qui disent « comment on fait pour pardonner ?» et ceux qui disent « mais comment faire pour ne pas pardonner ?» C'est tellement évident. Tout est histoire de dualité. Frères et sœurs, vous n'avez que 2 façons de vivre votre vie chrétienne. Soit vous la vivez avec une vision authentique de Dieu, soit vous la vivez par la visibilité. Soit vous marchez par vision, soit vous marchez par la vue. Paul dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'est l'un ou c'est l'autre. Quand vous avez un géant devant vous, vous n'avez que 2 possibilités. Marcher par vision, et là vous allez avancer et il va se passer des choses, ou alors marcher par la vue. Et à ce moment-là, vous êtes comme Saül et son armée et vous êtes en retrait, vous êtes tétanisé. Saisi de frayeur. Qu'est-ce qu'on va faire ? À la vue de cet homme, verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ce qui va me délivrer de la peur, ce qui va m'empêcher de vivre dominé, de vivre assujetti, c'est justement d'avoir une bonne vision de Dieu. Je le redis, la foi n'est pas du déni. La foi n'est pas du déni des circonstances. David a bien vu Goliath. La preuve, quand il a tiré, il ne l'a pas raté. Donc c'est qu'il l'avait bien vu. Mais David, lui, il ne marchait pas par la vue, pas par la visibilité. David ne se comportait pas en fonction des circonstances. David se comportait en fonction de Dieu. David voyait Dieu. Il y a des gens, pardon, ils ne voient que leurs problèmes. Il y a des gens, ils ne voient que leurs questions. Et il y a des gens, ils ne voient que les solutions. Ils ne voient que les réponses. Pourquoi ? Il y a des gens qui marchent par visibilité et il y a des gens qui marchent par vision. La vue, c'est de regarder aux circonstances. David n'a pas regardé à Goliath. Il n'a pas regardé aux circonstances. Il n'a pas regardé non plus à lui. Il n'a pas regardé son CV. Il n'en avait pas. Il est jeune. C'est un petit blondinet d'une belle figure. Tout le monde le méprise. Il n'a pas regardé à sa taille. Il n'a pas regardé à son équipement. Il n'en avait pas. Il n'a pas regardé à sa formation. Il n'en avait pas. Ses compétences, qu'est-ce que vous voulez ? Il venait de livrer du fromage et je ne sais plus quoi, du pain. Il gardait des troupeaux dans le désert et il faisait livreur de fromage à 16 heures perdues comme deuxième boulot. Il a quoi comme compétences ? Il a quoi comme équipement ? Il n'a rien. Et David aurait largement pu, en regardant à lui, dire « Ben oui, j'ai eu de la bonne volonté, mais enfin, place à ceux qui sont équipés. Il faudrait peut-être que quelqu'un de plus équipé que moi vienne me secourir dans cette situation familiale, financière ou autre, je ne sais quoi. » Il n'a pas regardé à lui, il n'a pas regardé aux circonstances, il a simplement regardé à Dieu. Et c'est, frères et sœurs, la seule façon de vivre sa vie chrétienne. Ça, c'est le point déterminant. Il y a la façon de regarder des hommes et la façon de regarder de Dieu. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans la méditation, c'est le verset 47. Alors que Goliath dit à David, « Je vais te tuer, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux des champs, etc. etc. » David, il dit, « Non, 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 c'est pas moi qui suis livré entre tes mains. T'as pas compris que c'est Dieu qui t'a amené ici pour que je te dégomme ? T'as pas compris que c'est Dieu qui a fait en sorte que tu sois là pour que j'aie cette victoire ? T'as pas compris que c'est Dieu qui te livre entre mes mains ?» Je ne sais pas comment vous regardez vos problèmes, mais vous les regardez soit avec le regard de Dieu, soit avec le regard humain. Je repense à ça. Le 6 juin 44, il y a eu le débarquement. Tous les 6 juin, on a toujours des reportages sur le débarquement. Et un jour, ce qui m'a marqué, c'était que deux hommes, deux anciens combattants, étaient interviewés sur le même fait. Et ils avaient interviewé dans le même reportage un homme qui était sur la plage et qui avait débarqué avec ses camarades sur la plage, donc lui il était sur la terre, et ils avaient interviewé sur la même scène, au même moment, ils avaient pris le témoignage d'un pilote, de celui qui était dans les airs. Et celui qui était sur la terre disait, lorsqu'on a débarqué, c'était l'enfer sur terre, c'était horrible, j'entendais les balles qui sifflaient, j'ai vu mes camarades tomber les uns après les autres, je voyais même plus la couleur du sable ou de la mer, tellement c'était rouge, gorgé de sang, ça devenait un enfer sur terre. Et il dit à un moment comme ça, il dit, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu mes frères par terre, je me suis dit, c'est impossible, on gagnera jamais, on est venu se mettre dans la gueule du loup, on est fichu. Le témoignage suivant, celui qui était dans les airs avec son avion, il était en train de sillonner, d'attaquer, de pilonner aussi les positions allemandes. Et quand il voyait cela, celui qui était dans les airs a un témoignage complètement différent de la même scène. Et il dit, quand j'ai vu les forces en présence, j'ai sauté de joie dans mon cœur. Je me suis dit, c'est impossible qu'on perde. On va leur mettre la raclée de leur vie. Qui avait raison ? Celui qui était en haut ou celui qui était en bas ? L'histoire me dit que celui qui était en haut avait raison. Ah, c'est sûr qu'en bas, ils ont pris des coups. Mon frère, ma sœur, peut-être que oui, tu as pris des sérieux coups. Avec certains Philistins, avec certains Goliaths. La vision me permet de voir les choses comme Dieu les voit. Elle me donne le regard de Dieu. Je vois les choses avec le point de vue de Dieu. Je vois les choses d'en haut. Je ne vois pas les choses d'en bas. Quand vous regardez les choses d'en bas, elles sont toujours trop grandes. Mais dès que vous prenez un petit peu d'altitude, elles vous semblent tout de suite beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles. Vous n'avez que deux façons de regarder vos Goliaths. Soit vous les regardez d'en haut, soit vous les regardez d'en bas. Soit vous marchez par vision, soit vous marchez par la vue. C'est l'un ou l'autre. Je vais même plus loin. Soit votre vision viendra à bout de votre visibilité, soit c'est votre marche par la vue, votre visibilité, qui finira par tuer votre vision de Dieu. Parce que c'est l'un ou c'est l'autre. Parce que nous, on aime bien les petits statu quo. On aime bien les trêves. Mais l'ennemi de nos âmes, lui, les trêves, il ne connaît pas. Goliath, les statu quo, il ne connaît pas. Les Philistins, ils ne connaissent pas. C'est un combat à la vie, à la mort. Et dans certaines circonstances, l'objectif avoué, qu'on en soit conscient ou pas, mais on le sait par la parole, l'objectif avoué du diable, c'est de vous renverser complètement et totalement de la foi, et c'est de vous anéantir. Il faut être conscient quand même dans quel monde on vit, quoi. Le monde spirituel, c'est... Excusez-moi, c'est pas oui-oui au pays des bisounours, on vit pas sur un petit nuage. Non, non, on vit les pieds sur la terre, j'ai le cœur dans le ciel, certes, le ciel est dans mon cœur, mais je vis les pieds sérieusement sur la terre. Et j'ai conscience des réalités, et là, il y a des enjeux qui sont sérieux. C'est soit la vision de David, soit la vue comme Saül et son armée. Souvenez-vous de Caleb qui avait gardé pendant 45 ans, on en a parlé hier soir, pendant 45 ans, il a gardé la vision de Dieu, il a gardé la vision du pays promis. C'était soit Caleb, soit les 10 espions qui, eux, ont marché par la vue. Ils ont dit non, mais il y a des géants, c'est beau, ça, certes, c'est bien, c'est très bien, c'est beau, mais il y a des géants, c'est pas possible, on remballe tout, merci, au revoir. Élie. Lorsqu'il est animé par une vision réellement de Dieu, qui est 850 faux prophètes devant lui, mais 850, mais c'est rien. 850 hommes contre un, c'est pas un géant ? Ben si. Mais qu'il y ait 850 hommes devant lui, c'est pas un problème. Tant qu'il est animé par la vision de Dieu, il se permet même de se moquer d'eux. Mais à partir du moment où Élie perd la vision et qu'il commence à marcher par la vue et qu'il commence à considérer Jézabel, eh bien, il va se sauver dans un désert, et la première caverne qui passe, il s'enferme dedans. C'est l'un ou c'est l'autre. Et ça, c'est le premier principe, c'est le plus important, parce que celui-ci, frères et sœurs, il va conditionner les cinq autres derrière. Et il faut que sur ce point-là, face à mon Goliath, je sache, est-ce que je marche par vision ou est-ce que je marche par visibilité ? Les gens qui marchent par vision, comme Caleb, comme David, sont toujours des gens extrêmement courageux. La vision, elle m'anime. Elle me fait faire des choses qui, certes, oui, humainement parlant, sont folles. Mais du moment que ça vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Oui, je dis des choses folles. Parce que regarder un gars de 3 mètres quand tu es petit, quand tu es sous-équipé et quand tu n'as pas d'épée, j'insiste, quand tu n'as pas d'épée, et que tu dis au grand qui est suréquipé, « Mon grand, je vais te tuer et je vais te couper la tête. » Soit tu marches avec une bonne vision de Dieu, soit tu es complètement dingo. Hein. Il fallait quand même le dire. « Je vais te couper la tête. » Il n'avait même pas d'épée. La vision, frères et sœurs, la vision, c'est une vue sur l'invisible. C'est de voir ce qui n'existe pas encore, humainement parlant. Mais ce qui existe dans le cœur de Dieu, et Dieu, dans sa grâce, a révélé ce qu'il y a dans son cœur et ce qu'il veut. Il a communiqué la vision, il a communiqué son point de vue, c'est-à-dire le point de vue du ciel, le point de vue d'en haut sur ma situation, et cette vision, elle est constamment alimentée par la parole de Dieu. L'une des plus grandes visions que le Seigneur a données à son peuple, c'est Nombre 13, j'en ai parlé très vite hier. Et dans ce livre des Nombres, au chapitre 13, le verset 1er, ça commence par « L'Éternel parla à Moïse ». Ah, la vision, ce n'est pas un truc de rêveur. Hein. Faut pas imaginer, parce qu'on a dit le mot « vision », tout de suite, on s'imagine des gens qui sont là « Ah, Dieu m'a parlé, ah, Dieu m'a parlé, ah, Dieu m'a parlé ». Mais les gens qui font ça, croyez-moi, Dieu ne leur a pas parlé. La vision, ce n'est pas une invention humaine. La vision, ce n'est pas un truc du luberlu, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un truc de farfelu, ce n'est pas un illuminé. Non, la vision, la vraie, celle qui vient de Dieu, la vision est alimentée par le « Dieu a dit », par la parole de Dieu. C'est ça qui me communique le regard de Dieu sur ma situation et qui me communique la vision de Dieu. La vision, ce n'est pas ce qui m'arrange. La vision, ce n'est pas l'issue que j'aimerais voir arriver. La vision, ce n'est pas l'aboutissement que je souhaite dans telle ou telle situation. Non, la vision, c'est ce que Dieu, lui, a décrété et qu'il va me communiquer de son point de vue du ciel, communiqué par sa parole. C'est ce que Dieu a révélé, c'est ce que Dieu a communiqué. David, il a une bonne vision de Dieu. Et quand on a une bonne vision de Dieu, on a une bonne vision de nos géants. Et on a une bonne vision de nous-mêmes. Bien souvent, frères et sœurs, si on a cette espèce de flou artistique dans nos circonstances et dans nos paroles, on en parlera plus tard, si on a cette espèce de flou artistique, si on est souvent dans la confusion, c'est parce qu'on n'a pas une bonne vision de Dieu. Mais David, regardez-le dans ses propos, dans son comportement, dans son attitude, dans ses réactions, il est parfaitement équilibré. Il n'y a pas plus équilibré que les gens qui marchent avec une vision de Dieu. Parce qu'ils ont non seulement une bonne vision de Dieu, mais une bonne vision de leur Goliath et une bonne vision de leurs circonstances. Puis il avait aussi une bonne vision de Saül. Sans lui manquer de respect, il savait très bien que pour Saül, c'était fini. Il avait aussi une très bonne vision de son frère aîné, Éliab. Parce que même s'il ne lui manquait pas de respect, il savait qu'Éliab, c'était un orgueilleux comme il n'en existait pas beaucoup et qu'il était à côté de la plaque. Et dans le cœur de David, dans ses pensées, dans ses attitudes, dans ses réactions, dans ses propos, tout est bien en place. Parfois, pardonnez-moi, on vit avec un grand problème, un moyen moi et un petit Dieu. Il y a des gens, ils vivent avec un grand moi, un moyen problème et un petit Dieu. Il y a des gens qui vivent avec un grand problème, un moyen moi et un petit Dieu. Et on peut retourner les choses dans tous les sens. Non, il n'y a qu'une seule façon. Une bonne vision de Dieu amène une bonne vision de mes circonstances et aussi une bonne vision de moi. Et moi, je ne peux pas être là ni là. Moi, je suis toujours là. Et si je n'en ai pas encore conscience, et ben c'est ça qui est super. Mon géant va très vite me rappeler qui je suis et où j'en suis. Regardez par exemple Élisée, deuxième livre des rois. Élisée, il est à Dothan, on connaît ce récit, j'en ai parlé un mardi soir en réunion de prière. Élisée est à Dothan et il y a à un moment, parce que le roi syrien lui en veut, il en veut à sa vie, Dothan, la ville, est encerclée par l'armée syrienne. Lorsque le serviteur sort, la première parole qu'il prononce, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous ?» Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste l'armée syrienne qui entoure la ville. Et lorsqu'Élisée, lui, il sort, il est au même endroit, il voit la même scène, mais Élisée, il ne voit pas l'armée syrienne. Oui, il la voit, parce que la foi n'est pas du déni. Il voit l'armée syrienne, mais surtout, il voit l'armée de l'Éternel qui est autour de l'armée syrienne. Et c'est ce qui lui fait dire, « Ah Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Il y en a un qui marche par la vue et un qui marche par vision. Il y en a un qui voit le problème et un autre qui voit Dieu sur son problème. Les gens qui ont une vision ont toujours un équilibre. Ils voient très bien Dieu. Dieu est parfaitement à sa place. Pardonnez-moi, mais est-ce que dans ta vie ce soir, tu ne penses pas qu'il faudrait que tu remettes Dieu à sa place? Dieu à sa place, sur son trône, sa place de souverain, sa place de Dieu, il est Dieu, il règne, il est souverain, il gère, il savait que ça allait arriver et il n'a pas fait en sorte que ça ne t'arrive pas. Il savait, c'est parce qu'il y a quelque chose devant toi, il faut que tu le renverses. Ensuite, une bonne vision de mon Goliath et ensuite une bonne vision de moi-même. Le principe spirituel suivant. Le deuxième grand principe que l'on retrouve dans ce texte, et dans d'autres aussi, c'est l'écoute. Ah, l'écoute est un facteur déterminant face à nos Goliaths. Ce que j'écoute, ou plutôt qui j'écoute, va être déterminant pour l'issue du récit. Partout, frères et sœurs, où il y a la foi, partout où il y a une victoire à remporter, partout où Dieu a permis, j'insiste, qu'il y ait un géant sur ta route pour te permettre d'expérimenter quelque chose de nouveau, partout où il y a une opportunité de victoire, c'est normal, il va y avoir des tueurs de foi. S'il y a une possibilité de marcher par vision, c'est obligé, il y a des tueurs de vision, toujours. Il y a des tueurs de foi, toujours. Et là, David, trois fois dans le texte, trois fois, de trois manières différentes, a été confronté à l'ennemi de son âme. Et je le redis, si on a le même Dieu, on a aussi le même diable, qui procède toujours avec les mêmes mensonges et les mêmes stratagèmes. Et tout est là, tout est écrit pour notre instruction. Nous n'ignorons pas ces desseins, dit l'apôtre. Trois fois, de différentes façons, le diable a essayé de le décourager. La première voix qui s'est fait entendre, c'est la voix familiale. Merci Seigneur pour nos familles, mais franchement, il y a des moments où ils ne nous rendent pas service, mais alors carrément pas, quoi. Vous avez un frère aîné, il aurait dû l'entraîner, il aurait dû lui montrer l'exemple, il aurait dû le prendre sous son aile, il aurait dû, non mais Eliab, le pauvre, il est... C'est un orgueilleux comme il en existe peu. Et là, il va y avoir, vous allez voir, ces trois formes différentes de tentatives de dissuasion. Mais la première, elle est vraiment forte. C'est vraiment l'agressivité de l'ennemi lorsqu'il se déchaîne contre nous. Et là, le diable va se déchaîner contre David au travers d'Eliab. C'est l'agression. C'est « je vais vraiment essayer de te casser et de te saper le moral. Je vais te dégommer verbalement. » Vous, vous vous êtes jamais fait dégommer verbalement parce que vous êtes chrétien. Ça n'arrive pas, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est arrivé à David. Vous avez des gens, ils ont le chic, quand vous avez un problème, pour vous enfoncer. Ils vous mettent la deuxième couche, la troisième couche, et ils vous mettent le vernis par-dessus. Et là, c'est vraiment un type de l'accusation ennemie de l'œuvre du diable, parce que Eliab va accuser David faussement. C'est le verset 28. Ce que dit Eliab est un pur mensonge. Eliab, son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. C'est vraiment le type de l'ennemi. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il lui fait des reproches. Et là, Eliab va accuser David de ce qu'il y a dans son propre cœur à lui, à Eliab. Il va reporter sur lui ce qu'il est. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. S'il y en a un qui est orgueilleux et malicieux, ce n'est pas David, c'est Eliab. Mais il reporte sur lui. Il l'accuse de ses propres travers, de son propre péché. La voix de l'accusation, de la voix de la culpabilité, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Autour de vous, forcément, j'en suis convaincu, vous devez en connaître. Il y a des gens, c'est des vrais extincteurs. Quand ils ouvrent la bouche, vous avez l'impression que ça fait... Vous avez un petit peu de feu qui commence à naître en vous. Vous avez un petit peu d'espoir. Vous avez repris un petit peu de force après un temps de communion avec le Seigneur. Vous avez repris de la pêche, pardonnez-moi, dans une réunion, vous vous êtes fait du bien. Vous sortez, vous êtes... Ah, vous avez envie d'aller de l'avant. Et là... Il y a quelqu'un qui chope le téléphone, il vous appelle. Ah, c'était un tel. Oui, blablabla, et puis à ça, et puis à ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte avec des trucs comme ça? Et vous, vous êtes là. Mais le diable est malin. Et il sait par qui il doit passer pour vous atteindre. Et là, ce sont les paroles tueuses de foi, les paroles tueuses de vie, les paroles décourageantes. Ça vous anéantit intérieurement. Quand vous pensez quand même, dans Nombre 13, j'y reviens, qu'il a simplement fallu du témoignage de 10 personnes, 10 espions sur les 12, 10, c'est quand même pas beaucoup, 10 personnes, 10 personnes ont réussi à en décourager 600 000. On parle des hommes vaillants en armes. On ne parle pas des femmes, des enfants et des vieillards, etc. Il devait y avoir au moins 3 millions de personnes dans ce peuple. 10 hommes ont découragé 3 millions de personnes. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas de puissance dans nos paroles, quand même. Il y a de la puissance dans nos paroles. Mais David, il n'a pas écouté Eliab. Alors, comme David n'a pas écouté Eliab, comme parfois vous arrivez à tenir tête à certaines personnes, même si c'est dur, dans vos situations, il va arriver d'une autre façon. Vous savez, c'est aussi l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert. S'il ne passe pas par un endroit, il essaye par un autre, puis au bout d'un moment, comme il est en échec, il se retire, il prend la fuite. Deuxième tentation, David n'a pas écouté la voix de Saül. Parce que de façon différente, mais bien réelle, Saül a quand même cherché à décourager David. Verset 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec lui, avec ce Philistin. Mais il est gentil, mais t'es mignon. Oh, mais c'est beau de vouloir servir le Seigneur. Mais c'est bien de vouloir avancer. Mais c'est super, mais oui, t'as raison, c'est bien. Mais t'es trop jeune. C'est pas possible. » Mais tu comprends, mais il faut être sage, il faut être raisonnable. Et vous avez toujours des gens, de façon beaucoup plus subtile, avec douceur, avec gentillesse, avec une apparence de sagesse, avec une apparence d'expérience. C'est bien, mais il faut être sage, il faut être prudent. Et c'est fou comment le diable, parfois, il peut prendre une voix extrêmement mielleuse. Cette voix mielleuse qui imite la voix de la sagesse. Et ce n'est pas la sagesse. Parce que parfois, la sagesse de Dieu est plus folle que la sagesse des hommes. Il faut se méfier des gens qui sont trop sages, avec un S minuscule. Il y a des gens, parfois, ils sont tellement sages, ils sont tellement réfléchis, ils sont tellement spirituels, ils ont tellement pris le temps de présenter la chose à Dieu dans la prière. Qu'ils ne font jamais rien. Parce que, frères et sœurs, il y a un temps pour prier, puis il y a un temps pour passer à l'action. Vous savez, derrière le mot « sagesse », en réalité, on peut dissimuler nos peurs. Et c'est ce que Saül était en train de faire. Saül se cachait derrière une pseudo-sagesse. Derrière le mot « sagesse », on peut cacher nos peurs. On peut dissimuler notre confort. Parce que Saül, ça faisait longtemps qu'il était confortablement installé dans son ministère, et que ça faisait bien longtemps qu'il n'envisageait certainement pas qu'il se passe quoi que ce soit. Il était trop bien installé dans son petit confort religieux. Il faut savoir que Saül est un type du rétrograde, du leader religieux rétrograde. Et parfois, derrière le mot sagesse, derrière certaines apparences, derrière certains mots, quand on met le mot prière, quand on essaye d'envelopper les choses, derrière on met notre confort, on met notre tradition, parce qu'on ne veut pas changer les choses, on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas être bousculé. Et mais que tu aies envie ou pas, de toute façon, Goliath, il se lève et il est là. Et maintenant, soit tu le renverses, soit tu vis esclave. David n'a pas écouté cette voix subtile de Saül. Ensuite, la voix du diable s'est fait entendre, troisième étape, par un autre chemin, c'est le verset 44. Il a été confronté à Eliab, il a été confronté à Saül, il est maintenant confronté à Goliath. Même au verset 43, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par tes dieux ?» Il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Vous savez, frères et sœurs, quand ce n'est pas quelqu'un de votre famille, ou quand ce n'est pas quelqu'un qui est un peu trop spirituel, je mets des grosses guillemets, hein, parfois la voix de l'ennemi, elle passe par l'intermédiaire de vos circonstances. Les circonstances vous véhiculent un message contraire. Les circonstances vous véhiculent un message de mort. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qu'on écoute, et on le verra ensuite demain, à ce que l'on véhicule dans notre langage. Ah, moi, je peux te dire, hein, moi je connais un frère, hein, le frère de Madame Machin, il avait la même chose, il avait la même maladie que le frère Intel. Je peux te dire, au bout de 6 mois, on l'avait enterré, hein, je te garantis. Les circonstances vous véhiculent un message contraire. Parfois, ce n'est même pas besoin d'une voix. Il suffit que le médecin il soit un petit peu trop concentré sur vos examens et qu'il fronce les sourcils. Et à l'intérieur, il y a un truc qui se lève en vous. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Les circonstances vous véhiculent un message contraire. Mais ce n'est pas ce que les circonstances disent. Ce n'est pas ce que le mari de la sœur une telle a dit qui compte. Ce n'est pas ce que le médecin dit. C'est ce que Dieu dit. Et j'ai besoin de savoir ce que Dieu dit dans ma situation. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans les évangiles. Pour vous faire un parallèle et vous montrer que les principes sont les mêmes. C'est la résurrection de la fille de Jaïrus. Et si vous faites bien attention, Jésus fait cette démarche avec Jaïrus. Il va aller à sa maison parce que sa fille est à l'extrémité. Et alors que Jésus vient de s'occuper de la femme à la perte de sang, il nous est dit, comme Jésus parlait encore, Jésus n'avait même pas fini de dire ce qu'il était en train de dire, survinrent de chez Jaïrus des gens qui amenèrent cette nouvelle, à quoi ça sert d'importuner davantage le maître ? Ta fille est morte. À quoi ça sert d'importuner davantage le maître ? À quoi ça sert de te battre dans cette situation ? Et les circonstances, certaines personnes ont été les porteurs d'un message contraire, le message véhiculé par les circonstances. Et j'aime beaucoup cet aspect du texte où Jésus, il est écrit, Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit à Jaïrus, ne crains pas. Crois seulement. C'est l'un ou c'est l'autre. Soit tes peurs viendront à bout de ta foi, soit ta foi viendra à bout de tes peurs. Mais il n'y a pas trois possibilités, il n'y en a que deux, comme toujours. C'est l'un ou c'est l'autre. Ne crains pas, crois seulement. Et derrière, j'aime encore ce moment où Jésus, lorsqu'il s'approche de plus en plus de la maison, il y a déjà les gens, les pleureuses qui sont là, on est en Israël, il y a tout un contexte, les pleureuses sont là, et quand Jésus dit, mais pourquoi faites-vous autant de bruit ? Elle n'est pas morte, elle dort. Et là, les gens commencent à se moquer de lui. Et je raffole de ce passage de l'Évangile. Jésus mit tout le monde dehors, et il garda avec lui Pierre, Jacques et Jean, le père et la mère de l'enfant. Et le miracle a eu lieu. Les voix d'Éliab face à tes Goliath, il faut les mettre dehors. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer sa famille, hein, d'accord ? Les voix subtiles des supraspirituels façon Saül, il faut les mettre dehors aussi. La voix des circonstances façon Goliath, il faut les mettre dehors aussi. Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, a mis tout le monde dehors. Je dois mettre tout le monde dehors. David n'a rien écouté de ces gens-là. J'ai mis ça ici pour terminer ce point. Ce que j'écoute, c'est ce qui va me conduire. Ce que tu écoutes, c'est ce qui va prendre autorité sur toi. Demandez à Ève. Elle a écouté la voix du serpent. Et on voit le résultat. Ce que tu écoutes, c'est ce qui va prendre autorité sur toi. Quelle que soit la forme que prend la voix de l'ennemi, ce que tu écoutes, c'est ce qui va te conduire, c'est ce qui va déterminer tes choix et tes directions. Les victoires, frères et sœurs, elles se remportent d'abord là, à l'intérieur, quand on a fait taire la voix des circonstances. Amen. On en reste là pour ce soir ?